Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Tenida, page 17, Daf Yudzain. Bonne écoute et bon limoud.
Umashtin Mayim Arum Lifne Mitato. Troisième cas, celui, par fainéantise peut-être, urine déshabillée devant son lit. Quatrième cas, Vermeshamesh Mitato Bifne Kolchai, celui qui a des rapports conjugaux, devant d'autres. Amarle Rav Yehuda le Shmuel. Rav Yehuda a dit à Shmuel, Veafilu Lifne Arbarim, est-ce que même devant des rats, cela est interdit? Rav Yehuda pensait que même devant les animaux, il y a un manque de discrétion. Amarle, Shmuel a répondu à Rav Yehuda, Shinena, comme nous l'avons déjà vu au début de ce chapitre, le mot Shinena était une sorte de surnom affectueux que donnait Shmuel à son élève Rav Yehuda. En tout cas, il lui a dit, Lo, cela n'est pas interdit. Et là, que gon shel bet ploni, shemeshamshin mitoten bifne avdehem veshifroteem. Quand Rabbi Shimon ben Yochai disait qu'Hachem haït une personne qui a des rapports conjugaux devant d'autres et qu'il employait le mot kolchai devant toutes sortes d'êtres vivants, c'est pour exclure ce qui se faisait dans la maison d'un tel où les rapports conjugaux étaient pratiqués devant les esclaves et les servantes. Veinhu Maïdorush, et eux, ce monsieur un tel dont le nom n'est pas cité, sur quel enseignement se sont-ils appuyés pour permettre une telle chose? Répond la Gemara, Shevu lachem po imachamor. Dans la paracha de Vayera, nous trouvons, lors de la Akedat Yitzhak, quand ils étaient encore en chemin, Avram avait vu, sur la montagne qui devait servir pour la construction de l'autel, une nuée. Il s'agissait d'une vision spirituelle qui a été perçue par Avram ainsi que par Yitzhak. Par contre, Eliezer et Ishmael, qui l'accompagnaient aussi, ne voyaient pas cette nuée. Avram leur a dit alors, « Shevu lachem po imachamor, restez ici avec l'âne. » Et nos sages expliquent que la raison pour laquelle il est précisé avec l'âne, c'est parce que l'on peut lire aussi « Am achamor »,« Am adome lechamor », »,« peuple qui ressemble à l'âne ». L'âne étant le symbole du « chomer », du détachement au côté spirituel, le verset vient nous apprendre qu'uniquement les descendants des patriarches Abraham, Yitzhak et ensuite Yaakov ont ce côté spirituel élevé, alors que les autres peuples sont sur ce point semblables à l'âne. En tout cas, la Gemara nous apprend qu'il y avait certaines personnes qui pensaient que de même qu'il n'y a pas un manque de discrétion d'avoir des rapports conjugaux devant les animaux, de même, devant des esclaves et des servantes qui sont, sur certains points, comparables à des animaux, ils pensaient qu'il n'y a pas aussi de problème, mais en réalité, comme nous l'avons vu, Rabbi Shimon ben Yochai, selon l'explication de Shmuel, a condamné cette conduite. Rabba Baravuna Mekarkesh Zage de Kilta. Rabba Baravuna faisait sonner des cloches qui se trouvaient dans sa chambre au-dessus de son lit. Les gens savaient qu'il voulait indiquer par cela qu'il voulait être seul, et c'est uniquement alors qu'il avait des rapports conjugaux, quand il était sûr que personne ne se trouvait aux alentours. Abaye balait des Yadvé, Abaye faisait en sorte de se débarrasser de toutes les mouches qu'il y avait dans sa chambre, Rava balait Prouché, et Rava, lui, se débarrassait de tous les moustiques qu'il y avait dans sa chambre. Bien que nous avons vu plus haut qu'il n'y a pas d'interdit dans cela, et c'est ainsi que la halakha est fixée. Cependant, il semblerait qu'Abaye et Rava étaient encore plus vigilants. Amar Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai a dit, Chamisha dvarim hen sha'oseh otan mitchayev benafsho. Il y a cinq choses qui mettent en danger de mort celui qui les pratique. Vedamo berosho, et on lui reprochera sa négligence s'il lui arrive quelque chose. Aochel shum kalouf. Celui qui mange un ail qui était sans peau, ou batsal kalouf, et de même un oignon sans peau, ou betsa kloufa, et un œuf qui est resté sans coquille, ve'achote mashkin mezugin, et celui qui boit une boisson diluée avec de l'eau, she'avar alein alayla, Dans tous les cas qui ont été cités, le danger est quand ils sont restés toute une nuit dans leur état. Un ail sans peau, ainsi qu'un oignon, etc. Ve'alan bevet akvarot. Et celui qui dormirait dans un cimetière. Ve'anotel tziporav vezorkan mirshut arabim. Et celui qui prend ses ongles une fois coupés et les jette sur une voie publique. Ve'amekiz dam umeshamej mitato. Et celui qui a fait une saignée, il semblerait qu'un don de sang soit comparable. Umeshamej mitato. Et qui juste après a des rapports conjugaux. Explique maintenant l'Agmara. A ochel shum kalouf. Celui qui mange un ail sans peau, etc. Ve afalgav de manche besilta. Même si l'ail est resté toute la nuit dans un panier. Ume tsaire vechatime. Et que ce panier est fermé avec un dessin et un seau. Ruach ra'a shora alehen. Un mauvais esprit s'attache à ses aliments. Ce qui veut dire, bien qu'en général, nous trouvons que les forces du mal, d'impureté, n'ont pas d'accès à un endroit fermé avec un seau ou avec un dessin, cependant, dans ce cas, ce n'est pas suffisant. Velo amran eladeloshier ba'en ikaran oklipatan. Et tout cela n'a été dit que dans un cas où il n'a pas laissé les racines ou de la peau. Aval shier ba'en ikaran oklipatan. Mais s'il a laissé les racines ou de la peau, letlanba, il n'y a pas de danger. Ve'ashote mashkin mezugin she'avar alein alayla. Rabbi Shimon ben Yochai disait aussi, celui qui boit une boisson diluée dans de l'eau, qui a passé la nuit. Amar Rabbi Yehuda amar Shmuel. Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel. Ve'u shelanu bikli matachot. Il faut aussi que cette boisson diluée ait passé la nuit dans un ustensile en métal. Amar Rav Papa. Rav Papa a dit, ou kli neter ki kli matachot damu. Et un objet fait de neter est comme un kli en métal. Le neter est une sorte de terre. Il y a une polémique sur le sens précis de ce mot. Certains disent qu'il s'agit de la lin, A-L-U-N, ou une sorte de craie. En tout cas, c'est uniquement si la boisson a passé la nuit dans un objet en métal ou dans un objet fabriqué de cette terre, qu'il y a un problème. Vechen amar Rabbi Yochanan, et ainsi aussi a dit Rabbi Yochanan, Ve'u shelanu bikli matachot, c'est uniquement dans un cas où la boisson a passé la nuit dans un ustensile en métal, ou kli neter, ki kli matachot damu, et un objet de neter aura ici la même loi qu'un objet en métal. Ve'alan bebet akvarot, et celui qui passe la nuit dans un cimetière, explique la Gemara, Kedesh tishrei alav ruach tuma, afin que plane sur lui ou que s'attache à lui un esprit d'impureté. Rashi explique que certains avaient cette habitude dans le but de faire de la magie. En tout cas, dit la Gemara, zimnin de mesaknin le, ces esprits peuvent parfois être dangereux, le mettre en danger. Ve'anotel tziporna vezorkan nirshut arabim. Et celui qui prend ses ongles coupés et les jette dans une voie publique. Explique la Gemara, Mipnei she'isha me'uberet, parce qu'une femme, si elle est enceinte, overet alehen, peut passer par-dessus, ou mapelet, et cela provoque une fausse couche. Velo amran ela de shakil begnustere. Et tout cela n'a été dit uniquement dans un cas où les ongles ont été coupés par des ciseaux. Velo amran ela de shakil de yade ou de carré. Et aussi, cela n'a été dit uniquement dans un cas où il a coupé les ongles des mains et des pieds. Velo amran ela de logaz mide batrayu. Et aussi, tout cela n'a été dit que dans un cas où il n'a rien coupé après. Avalgaz mide batrayu letlanba, mais s'il a coupé quelque chose d'autre après, il n'y a pas de problème. La Gemara maintenant revient sur ses paroles et dit, velohi, ce n'est pas ainsi, les kula miltachaishinan. Dans tous les cas, nous craignons aux effets que ces ongles peuvent provoquer. Tanu Rabbanan, une braïta dit, Gimel Dvarim Nehemru Betzipornaim. Trois choses ont été dites sur les ongles. Sorfan Chassid, celui qui les brûle est de grande piété. Kovran Tzadik, celui qui les enterre est injuste. Zorkan Racha, par contre, celui qui les jette est un impie. Rashi explique que l'homme de grande piété est au-dessus du juste, car s'ils sont enterrés uniquement, ils risqueraient un jour d'être déterrés. Ve'amekis dam ou meshamesh mitato est celui qui, après une saignée, a des rapports conjugaux. Il s'agit donc du cinquième cas énuméré par Rabbi Shimon ben Yochai, explique la Gemara, de'amar mar, car il a été dit, mekis dam ou meshamesh mitato, celui qui a fait une saignée et après a des rapports conjugaux, avianlo banim vitkin, il aura des enfants faibles. Ikizushnem, si le mari et la femme, les deux, ont eu une saignée, veshimshu, et qu'après cela, ils ont eu des rapports conjugaux, avianlo banin baale raatan, il aura des enfants extrêmement faibles. Amar Rav, Rav a dit, velo amran ela delotaim mide. Cela n'a été dit uniquement dans un cas où il n'a rien mangé après la saignée. Aval taim mide, mais s'il a mangé un petit peu après la saignée, l'etlanba, il n'y a pas de problème. La Gemara va maintenant revenir sur l'interdit d'avoir des rapports conjugaux en journée. Amar Rav Frisda. Rav Frisda a dit, Asur lo la'adam she'eshamesh mitato bayom. Il est interdit pour un homme d'avoir des rapports conjugaux en journée, chez Nehemar, comme il est dit, Ve'ahavta le'reacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mai mashma, comment apprend-on de ce verset, cet interdit? Amar Abaye, Abaye a dit, Shema yireba davar begune, vetit gane alav. L'homme risquerait de voir chez sa femme un côté déplaisant, et il aurait un mépris pour elle, lors des rapports conjugaux. Amar Ravuna, Ravuna a dit, Yisrael kedoshim em. Le peuple juif est un peuple saint. Ve'en meshamshin mitoteen bayom. Et ils n'ont pas de rapports conjugaux en journée. Amar Rava, Rava a dit, Ve'imaya bet afel mutar. S'il y avait une chambre totalement obscure, cela est permis. Ve'talmid racham, et le Talmid racham, ma'afil biksuto meshamesh. Lui seul a le droit aussi de se recouvrir et de rendre obscur avec une couverture, un habit, pour avoir des rapports conjugaux. En effet, celui qui est arrivé à la valeur de Talmid Racham, il est plus réservé, plus pudique, et une telle conduite est suffisante. La Gemara demande maintenant de notre Mishnah. Tnan, notre Mishnah disait, O Teshamesh le Oraner, d'après Bet Shamay, il est envisageable d'allumer une bougie lors des rapports conjugaux s'il n'y a pas suffisamment de tissu pour faire des vérifications avant et après chacun des rapports conjugaux. La question est donc que nous voyons de Bet Shamay qu'il n'est pas strictement interdit d'avoir des rapports conjugaux alors qu'il y a de la lumière. Répond la Gemara, Emma Tivdok Leoraner. Il faudra dire que c'est la vérification uniquement qui sera faite à la lumière de la bougie. Il faudra comprendre maintenant, Bet Shamay, qu'une bougie sera allumée uniquement entre deux rapports conjugaux pour examiner la vérification. Par contre, lors des rapports conjugaux, cela est strictement interdit. Tashma, la Gemara amène maintenant la Braïta qui a déjà été citée plus haut. Afalpi she'amru ameshamesh mitato le'oraner, areze megune, la Braïta disait, même qu'il a été dit qu'il n'est pas décent d'avoir des rapports conjugaux à la lumière d'une bougie, cependant, Bet Shamay disait que cela est envisageable. La question est donc que de cette braïta, nous voyons clairement que la bougie restait allumée lors des rapports conjugaux. Et bien que la braïta disait que cela n'est pas décent, cependant, cela n'est pas strictement interdit. Répond la Gemara, Emma abodek mitato leoraner areze megune. Là aussi, il faudra comprendre différemment la braïta et la lire de la manière suivante, bien qu'il n'est pas recommandé d'examiner la vérification à la lueur d'une bougie, la lumière n'étant pas assez bonne. Cependant, Bet Shamay disait que dans un cas où il y a plusieurs rapports conjugaux la même nuit, on peut se suffire de cette lueur pour l'examination du tissu entre les rapports conjugaux. Tashma, la Gemara, amène maintenant un argument d'une nouvelle braïta, Veshel bet Munbaz a Melech, et dans la maison du roi Munbaz, Ayuosin Gimel Dvarim, Il faisait trois choses, Umazkiri nota nishvar, et les sages mentionnaient ces choses en faisant leur éloge. Le roi Munbaz et sa mère, la reine Heleni, Heleni Amalka, sont mentionnés à plusieurs reprises dans les Mishnayot et les Braytot. Dans le Midrash Rabba, à la fin de la paracha de l'Ech Lecha, nous trouvons qu'il s'agissait d'une famille royale, non juive, qui se sont convertis au judaïsme. Il semblerait que leur conversion était très sérieuse, et, selon certains, ils vivaient environ 25 ans avant la destruction du temple, et ils régnaient sur un peuple assez important d'une contrée asiatique. Revenons maintenant à la Gemara. La Gemara cite maintenant les trois choses positives. Hayu meshamshin mitoteen bayom. Ils avaient des rapports conjugaux en journée. Ubodkin mitoteen de mila farava. Et ils faisaient les vérifications lors des rapports conjugaux avec du coton. Ce dernier, par sa blancheur, laissait percevoir même une toute petite tache de sang, ce qui présente un avantage. Venoagin Touma v'tahara bishlagim. Et ils appliquaient les lois de pureté, même avec de la neige. Dit maintenant la Gemara, Katane miya meshamshin mitoteem bayom. Nous trouvons en tout cas, dans cette braïta, qu'ils avaient des rapports conjugaux en journée, et que cela ne posait pas de problème. Répond la Gemara, Ema botkin mitoteem bayom. Il faudra lire ou expliquer différemment. On dira, ils examinaient la vérification qui se faisait lors des rapports conjugaux en journée. En effet, bien qu'il soit permis d'examiner la vérification à la lueur d'une bougie et il n'y a pas le devoir de revérifier une deuxième fois le lendemain à la lumière du jour, cependant, puisqu'il est préférable quand même d'utiliser la lumière du jour, chez Munbaz, l'examination se faisait toujours en journée. Continue la Gemara et dit, Achinami mistabra, et il semble de toute façon plus sensé d'expliquer ainsi, Deis al-Kadatar meshamshin, car si l'on voulait comprendre qu'ils avaient des rapports conjugaux en journée, comme il a été compris au départ, Maskiri nota nishvar, comment peut-on dire que l'on faisait de ça leur éloge? La Gemara veut prouver que nous sommes obligés d'expliquer que c'est uniquement l'examination de la vérification qui se faisait en journée. Car, même si nous disons qu'il est permis d'avoir des rapports conjugaux en journée, il semblait évident à la Gemara que cela n'est pas digne de louange. La Gemara revient sur cette preuve et dit, Inachinami, il est quand même possible de dire que les rapports conjugaux faits en journée peuvent être dignes de louange, de agav deika ones shina magne beape, car, par la fatigue, elle pourrait lui déplaire. Ce qui veut dire, si la nuit, le mari est fatigué, il pourrait accomplir ses devoirs conjugaux de manière forcée, par devoir ou pour sa conjointe, ce qui n'est pas du tout la volonté de la Torah. En effet, Rashi explique que dans le traité de Nedarim, la Gemara dit que si les rapports conjugaux sont appliqués avec une mauvaise intention, n'obéissant pas à l'esprit de la Torah, cela se répercutera sur les enfants. Ils auront des défauts importants. La Gemara cite 9 cas de mauvaise intention. Parmi ces cas, nous trouvons le manque d'attache affectueuse entre les conjoints. C'est donc la raison pour laquelle, quand le mari est très fatigué, ce n'est pas le moment propice pour des rapports conjugaux. La Gemara a maintenant repoussé la preuve qui a été amenée. Et bien qu'il soit possible de répondre que chez Munbaz, les rapports conjugaux ne se pratiquaient pas en journée, cependant, on ne peut pas prouver que c'est uniquement ainsi qu'il faut comprendre la braïta de Munbaz. La halakha est fixée qu'effectivement, il est interdit d'avoir des rapports conjugaux en journée. Néanmoins, nous avons appris aussi indirectement qu'une grande fatigue n'est pas convenable pour des rapports conjugaux. La Gemara va maintenant expliquer les autres points sur lesquels les sages faisaient l'éloge du roi Munbaz. Ubotkin mitoteen bemila farava. Et ils utilisaient pour les vérifications du coton. Mesayale le Shmuel. Cela soutient les paroles de Shmuel, de Amar Shmuel, car Shmuel a dit, En botkin et amita, ela bepakulin obetsemer nakiverach. On ne fait les vérifications qu'avec du coton ou de la laine propre et tendre. Amarav, Ravadi, Hayinu, c'est aussi ce que j'ai vu, des Chiavayatam, quand j'étais là-bas, en Eretz Israël, Be'arve Shabbatot Avu Amre, les vendredis, on disait, il s'agissait de vendeurs ou de colporteurs qui clamaient leurs marchandises et disaient, Man Bae Pakule Benahama, qui sait qui veut du coton pour le pain, Veloyadana Maike Amre, et sur le moment, je n'ai pas compris ce qu'il voulait. En effet, nous trouvons dans la Gemara que les sages ont cité le vendredi soir comme étant un moment propice pour les rapports conjugaux. C'est donc la veille que les colporteurs vendaient le coton nécessaire pour les vérifications lors des rapports conjugaux. Ils disaient du coton pour le pain, car, dans un sens figuré, cela fait allusion aux rapports conjugaux. Nous retrouvons ce langage dans l'histoire de Yosef et la femme de Potiphar. Le verset dit que Potiphar avait tout laissé dans les mains de Yosef, à part le pain qu'il mangeait, ce qui veut dire, dans un sens figuré, à part sa femme. Amar Rava, Rava a dit, Ane sharket de kitna, ma'ale livdika. Ces tissus de lin usagé sont excellents pour les vérifications. Demande la Gemara et nie, comment est-ce possible, ve'atana de Bemenaché, voilà qu'une braïta de la maison de Menaché disait, En botkin et amita, on ne fait pas les vérifications, l'obéed adom, ni avec un tissu rouge, ve'lobéed shachor, ni avec un tissu noir, ve'lobé pishtan, et pas avec un tissu de lin, et la bepakouline, mais uniquement avec du coton, obetsemer nakiverar, ou avec de la laine propre et tendre. Nous voyons donc que le lin n'est pas utilisable. Répond la Gemara, lokashia, ce n'est pas difficile, ce n'est pas une question. Abekitna, l'un parle de lin, habemane de kitna, et l'autre parle avec un tissu de lin. Veibait ema, et si tu veux, je te dirai, une autre réponse, haveha bemane de kitna, dans les deux cas on parlait de tissu à base de lin, habechadte, l'un parle d'un tissu neuf, habecharke, et l'autre parle d'un tissu usagé. Le lin n'était pas assez blanc pour les vérifications. Cependant, un vieux tissu qui a été lavé et relavé, blanchit avec l'âge et devient apte à cet usage. La Gemara va maintenant parler du troisième point sur lequel les sages faisaient l'éloge de Mounbaz. Noagin Tuma Vetara Bishlagin. Ils appliquaient les lois de pureté même à de la neige. Tnalatam. Il est enseigné dans une Tosefta. Sheleg enolochel velo mashke. La neige n'est considérée ni comme un aliment, ni comme une boisson, pour ce qui concerne les lois de pureté. N'étant alors ni un objet, ni un aliment, la neige ne deviendrait pas impure, même en contact avec une impureté. Chishev alav leachila, si on a pensé la consommer en tant qu'aliment solide, même dans ce cas, la neige ne sera pas impure comme l'aurait été un aliment. Les mashkeh, par contre, s'il a pensé la consommer sous forme de boisson, dès ce moment, la neige pourra devenir impure comme une boisson, selon les règles appliquées aux boissons. Nitma miktato lo nitma kulo. Dans un cas où la neige peut devenir impure et qu'une impureté a touché une partie de la neige, il y avait par exemple un amas de neige et un reptile impur mort a eu un contact avec une partie de la neige, l'onit makulo. Toute la neige ne sera pas impure. Uniquement les cristaux de neige qui étaient en contact avec le reptile le seront. Nithar miktsato, nithar kulo. Par contre, si un amas de neige a été rendu impur entièrement, il suffira de purifier une partie de cet amas uniquement pour que le tout soit purifié. En effet, bien que normalement, uniquement les objets ou les êtres humains peuvent se purifier en s'immergeant dans un mikveh, alors que de la nourriture ou des boissons, même impures, ne seront pas purifiées par l'immersion dans un mikveh. Cependant, si une boisson impure est versée dans le mikveh, elle sera considérée comme faisant partie du mikveh et à ce titre ne sera plus impure. Le contact avec l'eau du mikveh est suffisant pour qu'une boisson soit considérée comme une partie du mikveh. ainsi de la neige, puisque le seul moyen de la rendre impure, c'est en la considérant comme une boisson, elle aura donc toutes les lois de pureté appliquées aux boissons, et de même, si un bloc de neige est devenu impur entièrement, il suffira de mettre en contact une partie de ce bloc avec l'eau du mikvé pour qu'il retrouve sa pureté. Demande la Gemara maintenant, Hagufa Kashia, il semblerait qu'il y ait une contradiction dans les mots de la Tosefta. Amart nitma miktato lo nitma kulo. La Tosefta disait que si une partie de la neige devient impure, elle ne sera pas entièrement impure. Vehadar tane, et après cela, la Braïta, la Tosefta enseigne, nitar miktato nitar kulo, que si une partie devient pure, cela suffit pour purifier le tout. Le même ra de nitma kulo. Il s'agirait donc d'un cas où le tout est devenu impur. La question est donc, comment est-ce possible que le tout soit devenu impur, alors que la Tosefta disait au départ qu'uniquement l'endroit où le contact a eu lieu entre la neige et l'impureté est impur? Répond la Gemara, Amar Abaye, Abaye a dit, Kegon sheviru alavir tanur. Il s'agirait d'un cas où la neige est rentrée à un moment dans un four en argile impur. Dea Torah Eida, car la Torah a témoigné, la Torah a enseigné, Al Klicheres, sur un objet en argile. Nous tournons la page.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous passons à Daf Yud Zayin Amud Bet.
Afilu Malechardal, même s'il est rempli de graines de moutarde, que si l'objet est impur, tous les grains deviennent impurs, même ceux qui ne sont pas en contact direct avec les parois de l'objet. En effet, bien que les objets en métal, par exemple, s'ils sont impurs, ils ne rendent eux-mêmes impurs de la nourriture ou des boissons que par contact. Néanmoins, un objet en terre ou en argile rend impur tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'objet, même s'il n'est pas en contact direct avec les parois. En général, à cette époque, le four en terre était l'objet de cette matière avec la contenance la plus vaste. C'est pour cela qu'Abaye a répondu que si un bloc de neige est rentré dans un tel four, tout le bloc sera impur. Nous allons commencer maintenant une nouvelle Mishnah. La Mishnah traitera du lieu de provenance du sang qui rend la femme impure. Une introduction est nécessaire. Étant donné la complexité de ce sujet, ainsi que les différents avis émis par le Rishonim, aucune halakha ne pourra être fixée, ni de la traduction, ni de l'explication de la Gemara qui va suivre. Les membres génitaux de la femme sont en général divisés en trois parties, le vagin, le col de l'utérus et l'utérus. Il semblerait que le prosdor mentionné par la Mishnah est le vagin, alors que le cheder ou makor est l'utérus. Il semblerait que le col de l'utérus rentre aussi sous l'appellation de cheder ou makor avec le reste de l'utérus. Le sang qui rend la femme nida provient de l'utérus et uniquement de l'utérus, et la femme devient impure une fois que ce sang s'est détaché et qu'il est rentré dans le vagin. En effet, même si le sang n'est pas encore sorti, la femme est impure dès l'apparition ou l'écoulement du sang dans le vagin. Si pour une raison ou pour une autre, du sang sortirait du vagin alors qu'il ne provient pas de l'utérus, la femme n'est pas impure. La Mishnah que nous allons lire traitera de manière imagée de ces différentes parties. Mashal mashlu chachamim beisha. Les sages ont parlé de l'anatomie de la femme sous forme d'image ou d'allégorie. Acheder vea prosdor vea alia. Il y a la chambre, le couloir et l'étage. Dam acheder tamé. Le sang provenant de la chambre est impur. Dam ha'aliya ta'or. Le sang provenant de l'étage n'est pas impur. Nimtza baprosdor. Si le sang a été trouvé dans le couloir, sfeko tamé, dans le doute, nous disons qu'il est impur. Le fiche est cheskato minamakor, car il y a presque une évidence qu'il vienne de l'utérus. Ce que la Mishnah appelait aliya, l'étage, est une zone pouvant provoquer des saignements, il se peut que ces saignements ont pour origine les nombreux vaisseaux sanguins se trouvant dans cette zone. N'importe quelle plaie pourrait alors provoquer un saignement. Il se peut aussi qu'il s'agisse d'un endroit à haut risque infectieux. Il faut encore préciser que ce que la Mishnah disait à la fin, le sang qui se trouve dans le prosdor d'or, dans le doute, nous disons qu'il est impur, car il est presque évident qu'il vienne de l'utérus. Il faut comprendre de ces mots que l'impureté est évidente. Ce n'est pas une impureté dans le doute. La Mishnah a juste voulu dire que ce qui peut être chez nous un doute doit être tranché de manière sûre comme étant impur, puisqu'il y a une presque évidence qu'il vienne de l'utérus. La Gemara qui va suivre est une Gemara assez complexe. Pour la comprendre correctement, un schéma nous sera très utile. Le croquis que nous allons faire vient du Sefer Chochmat Betzalel. Ce croquis est simplifié, il n'a aucun rapport avec l'anatomie réelle. L'explication de la Gemara dans la réalité anatomique ne semble pas adaptable dans le cadre du Dafayomi. Les achronim, comme le Khatam Sofer ou le Chazon Ish, ont déjà traité de manière précise cette Gemara dans la réalité. Nous conseillons à l'auditeur de prendre un crayon et un papier et de suivre les instructions. Nous allons d'abord dessiner un carré, chaque côté ayant environ 3 cm. Nous avons maintenant un carré avec 4 côtés que nous allons appeler le côté haut, le côté bas, le côté droit, le côté gauche. Au milieu du côté bas, une toute petite ouverture sera faite, vraiment au milieu. Cette ouverture est donc à environ 1,5 cm du côté droit et du côté gauche. Dans ce même carré, nous allons maintenant tracer une ligne droite qui commencera dans le coin en haut à droite et qui aboutira sur le côté gauche à 1 cm environ du coin en haut à gauche. Dans cette ligne droite aussi, nous allons faire un petit orifice, une ouverture d'un ou deux millimètres. Cette ouverture sera environ à 7 mm du côté gauche. Cet orifice devra sortir plus à gauche que l'ouverture qui a déjà été faite en bas, dans le côté bas du carré au milieu. Nous allons maintenant tracer une autre ligne droite, toujours dans le carré. Cette ligne sera parallèle au côté gauche et au côté droit. Elle débutera du côté bas à 1 cm environ du côté droit. Cette ligne arrivera jusqu'à la diagonale déjà tracée. Là aussi, une ouverture sera ouverte sur cette ligne à 1 cm environ du côté bas. Il s'agit toujours d'une ouverture de 1 ou 2 mm. Nous voyons maintenant dans le carré trois zones différentes. La zone qui se trouve en haut du carré est l'alia, l'étage. Cet endroit qui peut provoquer le saignement ne rendant pas impure la femme. La zone qui se trouve du côté droit est le cheder ou l'utérus. C'est de cette zone que sort le sang qui rend impure la femme. Le sang sort par l'orifice que nous avons fait à cette zone. Enfin, la troisième partie du carré, la plus grande sur le schéma, c'est le prosdor, le vagin. Pour sortir du corps, le sang s'écoule par l'orifice que nous avons fait en bas du carré, au milieu du côté bas. Ce croquis, maintenant achevé, est censé représenter une coupe des membres génitaux de la femme vue de profil. Le côté gauche étant vers le ventre, le côté droit étant vers le dos. Ce croquis pourra servir aussi pour les plus persévérants dans l'étude de Tosfot. Nous pouvons maintenant commencer la Gemara. Rami bar Shmuel v'Rav Yitzhak bered Rav Yehuda tanu nida beravuna. Rami bar Shmuel et Rav Yitzhak, le fils de Rav Yehuda, ont étudié les lois de Nida chez Ravuna. Ashkechinu Rabba baravuna deyatve. Rabba, le fils de Ravuna, les a rencontrés quand ils étaient assis et ils étudiaient. Ukeamre, et il disait, Acheder mibifnim. La chambre se trouve à l'intérieur, vers le dos. Le côté gauche du croquis étant l'extérieur, le côté droit l'intérieur. Vea prosdor mibachutz. Et le couloir, le vagin, se trouve vers l'extérieur, du côté du ventre. Vea liya bnuya al shteen. Et l'étage se trouve au-dessus des deux. Velol patuach ben aliya la prosdor. Et une lucarne, un orifice, est ouvert entre l'étage et le prosdor, le vagin. Nimtza minalol velifnim svekotame. Si le sang est trouvé plus à l'intérieur que l'orifice, il y a une impureté dans le doute. Minalol velachutz svekotaor. Par contre, si le sang est trouvé plus à l'extérieur que l'orifice, dans le doute, elle n'est pas impure. Nous allons maintenant expliquer cela dans le dessin. Tout sang qui est trouvé dans la partie droite du prosdor, ce que nous appellerons la partie droite, et tout ce qui se trouve à droite de la lucarne de la halia jusqu'à l'orifice du côté bas, c'est un peu comme si nous traçons une ligne imaginaire qui transverserait les deux orifices, celui de l'étage et celui du côté bas. Ainsi, tout ce qui serait à droite de cette ligne est impur dans le doute, et tout ce qui est à gauche n'est pas impur du tout. D'après Rabbi Bar Shmuel et Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Yehuda, le sang trouvé à gauche de la ligne imaginaire vient certainement de l'étage, et il n'est donc pas impur, et le sang trouvé à droite de cette ligne est impur dans le doute, car il se peut qu'il vienne ou du rechem de l'utérus ou de l'étage. Il faut remarquer, dans cet avis, que même le sang trouvé à droite de la ligne imaginaire n'est impur que dans le doute, contrairement à la Mishnah qui parlait d'une impureté sûre. La Gemara va maintenant parler de ça. Ata ve'amar le le'avua, Rabba, le fils de Ravuna, est allé et en a parlé à son père, qui était Ravuna. Svekota me'amart l'anmar, est-ce que tu as dit que l'impureté est uniquement dans le doute? Ve'anan shecheskato minam makortnan, voilà que nous avons une Mishnah qui dit qu'il y a une impureté du fait de l'évidence que le sang provienne de l'utérus. Il s'agit de notre Mishnah. Rabba pensait que Rami Bar Shmuel et Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Yehuda, avaient appris ce qu'ils disaient chez leur maître Ravuna. Il a donc directement demandé à son père Ravuna la question. Amarle, Ravuna a dit à son fils Rabba, Anachika Amina, moi, c'est ainsi que j'ai dit. Minalol velifnim vadaitame. Tout sang trouvé plus à l'intérieur que l'orifice est impur de manière sûre. Minalol velachutz svekotame. Par contre, tout sang qui est trouvé plus à l'extérieur que l'orifice est impur dans le doute. Ce qui revient à dire dans notre croquis, tout sang trouvé à droite de la ligne imaginaire est, d'après Ravuna, impur de manière sûre. Et tout sang trouvé à gauche de la ligne imaginaire est impur uniquement dans le doute. Du côté droit, il y a une évidence que le sang provient de l'utérus, alors que du côté gauche, il se peut qu'il vienne ou de l'utérus ou de l'étage. Amar Abaye. Abaye a dit, Maishna minalol v'lachut desvekot ame. Quelle est la différence entre le côté extérieur à l'orifice, où nous disons qu'il y a une impureté dans le doute, des dilma shachata ou mechederata? C'est parce qu'il y a lieu de craindre que la femme s'est courbée et que le sang est venu alors de l'utérus. Abaye discute avec Ravuna et dit, la raison pour laquelle, d'après Ravuna, il y a lieu de dire que du côté gauche, il y a une impureté dans le doute, c'est parce que nous craignons que la femme s'est courbée et, dans cette position, le sang a pu arriver directement de l'utérus au côté gauche. Reprenons le croquis. Le sang impur, normalement, s'écoule de l'utérus qui est la zone de droite, sort par l'orifice fait à cette zone et continue le trajet dans le prosdor jusqu'à sortir dans l'orifice qui est au milieu du côté bas. Par contre, si la femme se penche, le carré serait posé alors sur le côté gauche, l'utérus serait en haut et le sang pourrait s'écouler directement sur le côté gauche avant de sortir. Minalol velifnim nami emaiz dakra umealiata. Diabaye, si c'est ainsi, même le sang trouvé plus à l'intérieur que l'orifice, nous pouvons dire que la femme s'est penchée en arrière, en s'adossant ou en se couchant sur le dos, et pourrait alors provenir de l'étage. Abaye dit, si nous craignons des changements de position, comme nous l'avons dit pour le côté gauche, d'après cela, même le sang trouvé du côté droit est impur uniquement dans le doute, car il se peut qu'il vienne de l'étage. En effet, si la femme s'adosse en se penchant en arrière, le croquis serait alors posé sur le coin en bas à droite, le coin en haut à gauche étant vers le ciel, Et le sang pourrait alors s'écouler de l'étage sur le côté droit. C'est ce que dit maintenant encore Abaye, Ella Amar Abaye, mais il faut dire, dit Abaye, Ibatar Chachacha Azalt. Si nous craignons à toutes sortes de positions, Aïde ve Aïde, ça fait coup. Que ce soit ici ou que ce soit là, l'impureté est uniquement dans le doute. Ve Ibatar Chazaka Azalt. Par contre, dit Abaye, si nous disons que d'après la halacha, il n'y a pas lieu de craindre à des situations sortant de l'ordinaire, Minalol velifnim vada etame, tout sang trouvé plus à l'intérieur que l'orifice est impur de manière sûre, Minalol velachutz vada etaor, et tout sang trouvé plus à l'extérieur que l'orifice n'est pas impur du tout. Abaye n'est donc pas d'accord avec Rabuna, et il dit qu'il y a deux éventualités de compréhension. Si d'après la halacha, il faut craindre toutes les positions, et qu'il se peut qu'au moment de l'écoulement, avant que la femme ne trouve le sang, elle s'est courbée en avant ou en arrière, le sang serait alors impur dans le doute uniquement, qu'il soit trouvé à droite ou à gauche de la ligne imaginaire. Par contre, si d'après la halakha, il n'y a pas lieu de craindre à toutes sortes de positions, sortant de l'ordinaire, nous dirons que le sang trouvé à droite de la ligne imaginaire vient très certainement du cheder de l'utérus. Il est donc impur. Et le sang trouvé à gauche de la ligne imaginaire vient certainement de la lia, de l'étage, et il n'est pas impur. Nous avons donc pour l'instant trois avis, celui de Rami Bar Shmuel et de Ravi Tzrak Bere de Rav Yehuda, qui disait, à droite de la ligne imaginaire, le sang est impur dans le doute, et à gauche, il n'est pas impur du tout. Ravuna qui disait, à droite, impur de manière sûre, et à gauche, impur dans le doute. Et d'après lui, la Mishnah qui disait qu'il y a une impureté de manière sûre parlait du côté droit, et enfin Abaye, qui n'envisage que deux possibilités, ou de dire que des deux côtés l'impureté est dans le doute, ou de dire que du côté droit l'impureté est sûre, et que du côté gauche il n'y a pas d'impureté du tout. Dit la Gemara, Tane Rabbi Chia. Rabbi Chia dit, il s'agit d'une braïta. Dam animtza bifrosdor. Si du sang est trouvé dans le vagin, le couloir, la personne devenue impure par ce sang, qui entrerait au temple, au Beth Amikdash, sera passible de punition. Et de même, si cette personne touche de la dîme sera brûlée. D'après cet avis, l'impureté est sûre. En effet, nous savons que pour une impureté qui n'est pas sûre, une personne ne pourrait être punie. Et aussi, la dîme qui est impure uniquement dans le doute ne peut être brûlée. Elle ne sera ni consommée ni brûlée. Ve Rav Katina Amar, et Rav Katina a dit, En chayavin alav al biat migdash, on ne pourra pas punir cette personne si elle rentre dans le Beth Amigdash, le temple. Ve en sorfin alav et atrouma, et de même, on ne brûlera pas, à cause de cette impureté, de la dîme. Rav Katina est donc d'avis que l'impureté est uniquement dans le doute. Dit maintenant la Gemara, Leach lishna de amara baye ibatar chachacha azalt. D'après la version qu'avait dit Abaye, selon laquelle nous craignons toutes les éventualités, tous les changements de position, Mesayale le Rav Katina. Cette version serait l'explication des paroles de Rav Katina, ou pliguer de Rabbi Chia, mais ne pourra pas aller d'après Rabbi Chia. D'après cette version, quel que soit l'endroit où le sang est trouvé, l'impureté est uniquement dans le doute. Et Rav Katina avait dit aussi que du sang trouvé dans le vagin est impur uniquement dans le doute. Par contre, d'après Rabbi Chia qui disait que l'impureté est sûre, cette version ne pourra pas être appliquée. Leach lishna de amart ibatar chazaka azalt. Et d'après la version selon laquelle on disait que nous supposons que la femme avait une position normale lors de l'écoulement, et nous ne craignons pas toutes sortes de positions qui ne sont pas habituelles. Mais ça y allait, les Rabbi Chia, nous pourrons, d'après cette compréhension, expliquer les paroles de Rabbi Chia, et nous dirons que Rabbi Chia, qui avait dit que du sang trouvé dans le vagin est impur de manière sûre, parlait du côté droit de la ligne imaginaire, Abaye avait dit que dans ce cas, l'impureté était sûre.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.